Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles, Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage, pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changés. Venez écouter comment. Un petit tour et puis changeons. Australie, troisième partie. On continue notre descente vers le sud et là on réalise quelque chose auquel on n'avait pas pensé, c'est que plus on descend vers le sud, plus il commence à faire froid, en tout cas l'océan se rafraîchit, les nuits sont beaucoup plus fraîches et c'est vrai que niveau baignade, on commence à se baigner moins souvent. Et donc quand on arrive sur un des camps où on réalise en allant voir la mer qu'il n'y a pas de possibilité de surf, bon, on avait décidé d'y rester 3 jours et finalement on ne reste qu'une nuit. Et on descend plus vite vers le sud en se disant, quitte à avoir froid, autant qu'on soit quand même sur un spot où on peut vraiment surfer. On sent qu'on arrive à un stade où on ralentit encore davantage dans notre façon de voyager et surtout on fait plus appel à notre intuition et notre flexibilité, c'est-à-dire qu'on prévoit moins à l'avance. Par contre, on s'écoute vraiment et si on sent qu'on n'est pas, on n'a pas ce qui nous plaît sur place, on écourte. Et vice versa, si on est vraiment bien, on se laisse le plaisir, le loisir de rester plus longtemps. Et du coup, c'est ce qui fera qu'on avait prévu d'aller au-delà de Melbourne lors de notre road trip pour aller visiter ce qui s'appelle la Great Ocean Road, mais qui nous aurait fait dépasser Melbourne et revenir, et il nous aurait fallu, je pense, au moins une semaine supplémentaire, si ce n'est plus. Enfin, en tout cas, vu la façon dont on est en train de voyager. Et puis, finalement, on ne le fera pas, on décidera de ne pas le faire. Voyager au long cours, c'est faire des choix, et donc faire des choix, ça signifie de renoncer. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est un peu nouveau. Avant, j'avais envie de cocher toutes les cases de visite, et là, je vois que les choses sont en train de bouger. Alors, c'est pas très agréable là, pour moi. J'ai même un moment, je sais qu'il y a quelques jours dont je me souviens qui n'étaient pas très faciles. Parce que, en fait, je suis confrontée à une forme d'ennui. Alors, ça paraît fou, mais c'est vrai qu'on a pris nos habitudes là, au bout d'une douzaine de jours de road trip. On sait comment trouver un campsite, on sait à quel moment il faut qu'on s'approvisionne en eau, en nourriture. On a à peu près 3 à 4 jours d'autonomie à chaque fois avant de revenir, entre guillemets, à la civilisation. Et puis entre les deux, on peut se poser dans un campsite, face à l'océan, aller surfer ou se baigner, se promener, lire. On a zéro Wi-Fi. La 4G, le réseau téléphonique qui passe très difficilement. Donc clairement, on est avec nous-mêmes, quoi. Et moi, je sais que je commence à ressentir, j'ai une étape difficile dans ce moment du voyage où je me dis, qu'est-ce que je fais, quoi? Comment je m'occupe? Je me sens, je m'ennuie un peu. Et puis finalement, cette sensation s'estompe au bout de quelques jours. Après avoir beaucoup réfléchi à ce sujet, et je me rends compte que, moi j'ai beaucoup existé par le faire, par l'action ces dernières années, et beaucoup moins par le fait d'être tout court. Et ça c'est un peu philosophique, mais moi je me souviens parfaitement de l'endroit où j'étais assise, dans quel campsite, quand j'ai pris conscience de tout ça en Australie. On continue d'être guidé par notre intuition pour descendre sur un campsite encore plus au sud. Et là, je pense que c'est, on est au paroxysme quoi, des endroits magnifiques où on a pu rester, où on est comme sur un balcon sur l'océan, c'est-à-dire qu'il y a un emplacement, un petit grillage, c'est pour protéger la dune qui descend, et l'océan, il est juste, il est là, à nos pieds. Et c'est vraiment incroyable. Et je me souviens qu'on fait une balade le premier soir parce qu'on arrive en fin de journée, une fois qu'on a voilà, installé notre campement. Évidemment, oui, on a juste des voisins à gauche, mais personne d'autre. En fait, il n'y a personne. On est hors saison, donc c'est génial. Et on part faire une balade sur la plage. On descend, on part sur la gauche. Et là, très vite, on voit des dauphins, une colonie de dauphins, pas loin du bord, qui sont là, qui jouent dans les vagues, ils sautent. Et c'est un peu comme s'ils nous accompagnaient, ils nous suivaient dans notre balade. Donc après, on fait demi-tour, on repart dans l'autre sens, et les dauphins font demi-tour. Et ça, on le vit pendant peut-être une demi-heure, et sur deux, trois allers-retours. Et c'est... Moi, je suis émue tellement c'est incroyable de vivre cet événement. Je me rends compte que, et ça vaut jusqu'au bout du voyage, on aura vu énormément d'animaux, une faune incroyable dans tout notre voyage. Mais je pense que ce qui m'a le plus ému, ce sont ces dauphins. Les dauphins, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément touchée. Je ne sais pas dire pourquoi, j'ai ressenti une connexion particulière à ce moment-là. Et là, je réalise la chance extraordinaire qu'on a d'être là et de vivre cet instant. Un matin, Daniel revient de sa session de surf matinale accompagné de Matt, qui est un surfeur de 22 ans, australien, qui est en vacances dans un campsite pas loin avec sa famille. Et il est venu chercher ce spot parce qu'il n'y avait pas de vagues par chez lui. Donc, ils se sont rencontrés à l'eau avec Daniel. Ils ont même vu... un phoque sautait au-dessus de leur planche de surf. Donc ça, c'est assez fou. Et Daniel lui a proposé un café en sortant de l'eau parce qu'il fait assez frais. Et là, bah, c'est hyper sympa parce qu'on reconnecte aussi socialement. Je crois que bah, ça nous manque, hein, une fois de plus. Donc, on est hyper contente de partager ce moment de conversation avec lui. On accroche bien et comme on ne sait pas trop où s'arrêter à la prochaine étape, ben lui nous dit ben venez passer quelques jours sur le campsite où je suis avec ma famille. Il nous raconte qu'il y va chaque été depuis des années avec ses parents, des très bons amis de ses parents. Ils sont une bande de jeunes. Lui, il vient avec son frère. Et ils se retrouvent et ils vont voilà, se balader, faire du vélo, surfer, se baigner. Et donc, ils nous proposent qu'on les rejoigne. On trouve un emplacement sur ce campsite et on y passe 4 jours. Hyper sympa parce que ben, on se voit régulièrement. Matt, il joue de la guitare, donc c'est sympa. Il y a des petites sessions guitare avec Daniel. Et puis, on fait la connaissance de Evie, qui est une jeune campeuse qui est là, qui vit dans son pick-up qui est aménagé hein, pour pouvoir dormir dedans, qui a quitté sa famille au mois de janvier. Donc là, on est mi-février, ça fait un mois et demi quoi, qu'elle est partie. Elle est diplômée de sciences marines et elle a dit ben, « je pars, je veux trouver ma voie professionnelle, trouver l'endroit où je vais établir ma vie ». Et elle est au début de son voyage. Elle est dans une forme de voyage initiatique et elle nous raconte un peu ça, c'est hyper sympa. Et on lui propose de venir dîner un soir avec nous. Et puis on rencontre également d'autres voisins de camping, Jono et Sarita, qui sont un couple alors très, très rangé. Ils se sont rencontrés à l'église, donc ils sont très croyants et pratiquants. Ils sont adorables. Et on a de longues discussions sur leur quotidien, nous, notre voyage. Et puis lui, Jono, il est assez fasciné par la vie des aborigènes. Donc on en parle pas mal. Et il nous transmet des titres d'ouvrages pour qu'on puisse se renseigner là-dessus. Bref, c'est hyper sympa de pouvoir avoir ces liens, passer ces moments où on boit des coups les uns avec les autres, et puis on discute, on a des conversations avec d'autres adultes qu'avec nous-mêmes. Et c'est très riche aussi pour nos enfants qui se retrouvent aussi avec ces jeunes qui sont hyper ouverts, qui leur posent beaucoup de questions. Donc c'est vraiment nourrissant pour tous. C'est marrant, ces rencontres que l'on fait sur le voyage au long cours. C'est très court, mais c'est hyper intense. On connecte, quand on connecte avec les gens, on connecte immédiatement et presque on a envie de tout partager avec eux sur un très court laps de temps. Et c'est vraiment étrange, ouais, cette intensité. Je sais pas ce qui... C'est comme s'il y a des choses vraiment particulières qui nous relient. Est-ce que c'est parce que c'est rare? Et est-ce que c'est parce que ça nous manque beaucoup? Je ne sais pas. En tout cas, quand on se quitte avec Matt, son frère, les jeunes, eh ben, on a un petit pincement au cœur, ça nous fait un peu drôle. On est très heureux, puis on part toujours dans l'idée qu'on va garder le contact. Puis en fait, c'est une illusion, ça ne se fait pas, bien sûr. On finit par rendre le camping-car à Melbourne, et là, on a loué un appartement pour deux nuits, pour... pouvoir, bah, comme d'habitude, faire le tri de nos bagages, s'organiser pour pouvoir rejoindre notre étape suivante, qui est l'Indonésie. Et on en profite aussi pour visiter la ville de Melbourne. Il y a beaucoup de street art, c'est très très sympa. Et puis on est quand même très content d'être dans un appartement. Alors certes, c'est dans un building, on est très haut, je crois qu'on est au 23e étage, mais on a des lits super confortables. On est voilà, dans un intérieur. La salle de bain est quand même hyper agréable. Et ça, c'est chouette. C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on a expérimenté pendant tout ce séjour aussi, c'est la gestion de l'eau. En fait, on a un réservoir dans le camping-car qui permet d'utiliser, bah, de pouvoir se rincer rapidement, se dessaler après la baignade ou après le surf. Mais on faisait la vaisselle avec de l'eau de mer pour l'économiser. On l'utilisait juste pour voilà, se brosser les dents, faire la petite toilette de chat. Et clairement, on était content de pouvoir de temps en temps rejoindre un campsite avec 3 minutes de douche chaude pour pouvoir se laver les cheveux et avoir une douche voilà, un petit peu plus longue que vite un rapide jet d'eau pour se rincer. Le bilan de ce road trip en Australie, il est très positif. Toute la famille est très contente d'avoir vécu cette expérience, d'avoir pu se sentir libre dans ces grands espaces, d'avoir pu surfer dans des endroits incroyables. On était au milieu de la nature, d'une faune très, très sauvage. Par contre, Daniel et moi, on est assez impatients de rejoindre l'Indonésie parce qu'on ressent le manque de la différence culturelle. Et je pense aussi que c'est ce qu'on est venu chercher dans ce voyage, c'est de pouvoir découvrir des façons très différentes de faire que celles qu'on connaît dans nos pays occidentaux. Et voilà, ça nous manque un peu et on sait qu'on va regoûter à ça dans quelques heures. On se souviendra très longtemps de cette journée de voyage, ce départ en tout cas de Melbourne pour l'Indonésie. Parce que je pense que c'est la pire journée qu'on va vivre de tout le voyage. En fait, il se passe une accumulation d'événements négatifs qui commencent par le taxi qui doit venir nous chercher pour nous emmener à l'aéroport. Donc Daniel commande un Uber maxi large. Le premier Uber arrive et nous, on a nos deux planches de surf. Et le Uber ne peut pas nous prendre avec les deux planches de surf. Il nous renvoie un autre Uber qui possède exactement le même véhicule. Là, ce deuxième Uber nous explique qu'il faut annuler la commande et commander un véhicule 9 places. Heureusement, on a vu large en termes de timing. Notre avion, il est en fin de journée. Il faut qu'on libère le logement à 10h. Donc, on s'est dit qu'on allait passer la journée à l'aéroport et travailler dans un café. Donc, on ne se stresse pas trop. On charge le troisième véhicule qui arrive et on se rend à l'aéroport de Melbourne. Sur place, on s'installe dans un café pour avancer l'école à la maison. Et là, en cherchant un iPad, Daniel réalise qu'il n'a pas son ordinateur portable dans son sac. Donc, il commence à s'agiter dans tous les sens, on vide tous les sacs. Effectivement, on ne trouve pas l'ordinateur. Pendant une demi-heure, il formule l'hypothèse qu'il s'est fait voler l'ordinateur dans l'aéroport. Donc, il va voir la police de l'aéroport. Mais ce n'est pas concluant. Et puis, on se refait le chemin dans la tête et on réalise que peut-être il a été oublié sur le frigo en train de charger, mais sur le dessus du frigo, dans l'appartement qu'on avait loué. Je contacte l'agence qui gère le Airbnb pour leur demander d'aller voir s'il est bien sur le frigo. Alors ils nous disent qu'ils ont entière confiance dans les équipes de ménage qui sont déjà passées et qui n'ont rien relevé. Ils demandent quand même à l'équipe de ménage s'ils ont vu quelque chose. Donc il y a des échanges de messages et puis ça se solde par un non. Ils n'ont pas trouvé l'ordinateur. Nous, ça nous tracasse vraiment parce qu'on est sûr à 99% que l'ordinateur est resté dans l'appartement. Et donc là, on se souvient qu'il y a un tracker qui permet de suivre où se trouve l'ordinateur. Donc Daniel se connecte sur son compte et là, il voit effectivement que l'ordinateur se trouve dans la même rue où nous avons loué l'appartement et qu'il est en train de se déplacer, cet ordinateur. Donc là, on recontacte l'agence pour leur dire « Écoutez, on a un tracker sur l'ordinateur et on voit qu'il est dans la rue et qu'il est en train de se déplacer de tel numéro à tel numéro. » Et là, avec grand miracle, 5 minutes après, l'agence nous recontacte en disant « Ah ben oui, vous avez beaucoup de chance, la personne à l'accueil a récupéré votre ordinateur, vous pouvez venir le chercher. » Donc là, on est soulagés, même si ça nous énerve d'avoir été un peu pris pour des imbéciles. Et Daniel saute dans un taxi, il fait l'aller-retour jusqu'à l'hôtel, donc c'est quand même une demi-heure aller, une demi-heure retour. Quelque chose comme 170$ de taxi pour récupérer l'ordinateur. Mais bon, on se dit que le principal, c'est finalement de l'avoir avec nous. Quand il revient, c'est l'heure d'enregistrer. Donc on va au desk d'enregistrement avec tous nos bagages, incluant 2 surfs qu'on a achetés en Australie, qu'on va emmener en Indonésie. Et Daniel s'était renseigné sur la possibilité de prendre les surfs avec nous. Il n'y avait pas de coût supplémentaire, donc on y va assez serein. Et en fait, quand on arrive à l'enregistrement, l'hôtesse nous explique que ce n'est pas tant lié au poids des bagages, mais c'est plutôt lié à la quantité. Et donc là, on a un problème, c'est qu'on a trop de bagages par rapport au nombre de personnes. Ça nous coûterait extrêmement cher. Donc ce qu'elle nous suggère, comme on a des sursacs, des housses qui se mettent sur nos sacs à dos de voyage, elle nous suggère de dispatcher nos affaires et de faire en sorte de n'avoir que 4 sacs de voyage pour pouvoir emmener les surfs avec nous. Et donc là, on fait ce que parfois on observe dans certains aéroports qui nous font peine. C'est des familles qui ouvrent leurs bagages devant le desk d'enregistrement et on est là à dispatcher toutes nos affaires. Bon, bref, c'est un moment quand même assez désagréable, surtout qu'on nous avait donné les informations qui nous permettaient d'emmener nos surfs et finalement, elles étaient erronées. On est quand même soulagé d'avoir pu trouver une solution pour nos bagages sans que ça nous coûte un surplus qui aurait été assez conséquent. Et là, l'hôtesse nous demande notre billet de sortie de l'Indonésie, ce qui est compliqué pour nous parce qu'on a prévu sur les 9 prochaines semaines de se balader entre l'Indonésie et les Philippines et de repartir de Singapour, qui est en Malaisie, 9 semaines plus tard. Et donc là, elle nous explique qu'elle ne nous laissera pas embarquer s'il n'y a pas de billet de sortie du territoire indonésien. Et là, on commence vraiment à stresser, à se mettre en colère, quoi. On ne comprend pas pourquoi cette compagnie aérienne fait du zèle et insiste pour avoir ce billet de sortie du territoire indonésien, alors qu'on embarque à Melbourne, cette société, elle est australienne, et on est en règle pour pouvoir entrer sur le territoire indonésien. Là, l'heure commence à tourner, donc on se pose sur le côté avec Daniel, on se dit qu'il faut qu'on trouve une solution, de toute façon, on ne va pas louper le vol. On est dans les derniers passagers à enregistrer. Donc on ouvre l'ordinateur, on se connecte au Wi-Fi et puis on fait nos calculs. On a prévu de prendre le temps de visiter l'Indonésie, mais on n'a pas pris le visa qui nous permet de rester plus de 30 jours dans le pays. Donc on savait qu'il fallait qu'on sorte du pays à un moment ou à un autre. On avait évoqué le fait d'aller aux Philippines. Donc là, on regarde les billets pour aller aux Philippines à peu près 3 semaines et demie après notre arrivée en Indonésie. Et là, bah, les tarifs sont hyper élevés, on doit prendre une décision rapide en termes de date, d'horaire. Et c'est vrai qu'on essaye de faire une recherche optimale en termes de prix, mais bon, on est sous stress, dans la précipitation. Donc on finit par prendre des billets d'avion, ça nous coûtera bien cher et ça nous prend vraiment la tête d'avoir été contraints et obligés de planifier ça maintenant. C'est pas du tout ce qu'on avait prévu. On finit donc dans la salle d'embarquement et là c'est la cerise sur le gâteau. Daniel porte sa guitare sur le dos. Personne ne nous a rien dit. En tout cas, l'enregistrement, l'hôtesse, elle a bien vu qu'on avait notre guitare. Et là, le chef de cabine nous explique qu'on ne va pas pouvoir voyager avec la guitare dans l'avion. Donc là, c'est incompréhension. Et après explication, enfin, on n'a pas le choix. Il nous oblige à la faire passer en soute. Donc ça, c'est gros coup dur, parce que je crois que c'est la première fois que ça nous arrive avec Daniel sur le début du voyage. Après, on aura d'autres épisodes là-dessus, mais c'est la première fois. Et donc, il essaye d'argumenter, mais le chef de cabine, il veut rien entendre. Et donc, bon, Daniel peste, il s'énerve, mais il dit OK. Et on finit dans l'avion. Et puis, au bout de 10 minutes, le chef de cabine vient nous voir dans l'avion et vient nous expliquer qu'il comprend très bien le français et qu'on a été très mal poli vis-à-vis de son équipage et que ça, c'est inadmissible. Alors qu'en fait, Daniel a juste pesté contre la situation, mais il a insulté personne. Enfin bref, il nous parle comme deux enfants qui ont fait quelque chose de mal et on déteste ce ton. Ça vient nous achever pour cette journée de voyage. Là, moi, je suis au bout du rouleau et j'ai vraiment le sentiment que c'est cette accumulation de mésaventures, ça vient gâcher ces dernières semaines. Enfin, je me sens vraiment abattue par tout ce qui vient de se passer. Et puis finalement, on se dit, eh ben, on fait bien de partir de ce pays. Partons loin de tout ça et allons rejoindre notre prochaine destination qui est Bali. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Un petit tour et puis changeons. Ça vous a plu? Venez écouter l'épisode 17 sur le début de notre voyage en Indonésie. À bientôt !